Retour à questions d'actualité sur les ondes de la radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Comme chaque semaine, on vous propose un petit tour d'horizon de la semaine politique canadienne et québécoise. Au menu, on a retenu trois sujets. L'affaire Camara, les Hassidim d'Outremont remportent leur cause et l'opposition réclame une enquête publique sur la gestion québécoise de la COVID. Je parle de tout cela avec Nick Payne, analyste politique. Bonjour Nick.
Bonjour Jean-Philippe.
Alors, on va commencer avec l'affaire Camara, du nom de Mamadi 3 Farah Camara, qui a été, il y a eu erreur sur la personne pour le dire de façon euphémistique.
Oui, poli, en effet, quelle aventure. Personne n'aurait voulu être à la place de ce pauvre monsieur Camara. Alors, il n'y a plus besoin de répéter cet épisode à nous. Les auditeurs qui, en date d'aujourd'hui, doivent pas mal tous savoir de quoi il s'agit, même si c'était une affaire montréalaise à l'origine. C'est donc cet homme qui, tout de suite après s'être vu décerner un constat d'infraction par un policier, a été resté assis dans sa voiture pendant qu'une tierce personne, un individu sorti d'un peu nulle part, est allé tabasser le policier, lui a subtilisé son arme pour tirer dessus, avant de s'enfuir. Et le policier, lui, est demeuré convaincu que cette agression était le fait de M. Camara, pauvre lui, qui était son dernier client, si j'ose dire.
Et donc, je pense que M. Camara avait justement appelé le 911 ensuite.
Il a lui-même ensuite appelé le 911.
Voilà,
il est devenu qu'on appelle un témoin important, tellement qu'il a été arrêté puis emprisonné pendant 6 jours avant que le système, tout de même, il faut le dire, finisse par faire son travail, hein, parce que c'est la partie souvent qui manque à ceux qui font une critique acerbe des policiers ou en tout cas de l'ensemble de notre système qui aurait un biais, encore une fois ici, là, raciste ou racial ou autre, je ne sais pas, mais toujours est-il qu'il faut quand même noter que le système a fini par fonctionner trop tard, de toute évidence, parce que M. Camara a subi un préjudice important, mais néanmoins, il y a quelqu'un quelque part qui a fini par remarquer, faire à nouveau le tour de la preuve et examiner tout ça et dire non, attendez, là, on
aperçoit... Il y avait une vidéo, oui.
Une personne.
Tout à fait.
Cette vidéo-là avait été vue déjà par les enquêteurs, mais ils n'avaient pas remarqué... La silhouette, il semble qu'on voit l'ombre d'une tierce personne s'approcher du policier sur cette vidéo. Alors, bref, bon,
alors,
M. Camara a été libéré et puis, bon, 24 heures plus tard, blanchi là, de tout soupçon.
Avec les excuses officielles et publiques du chef de la SPVM, de la Sécurité publique de la Ville de Montréal, le service de police, pardon, de la Ville de Montréal. Donc excuses publiques. En fait, écoutez... Pardon?
Oui, ce qui est exceptionnel.
C'est exceptionnel, je veux dire, en un sens, je veux dire, les policiers, de ce côté-là, au point de vue, j'allais dire esthétique, je veux dire, au point de vue officiel, pardon, au point de vue, il fallait des excuses formelles, officielles, publiques, et ça a été fait. Une erreur judiciaire, c'en est une, qui dure 6 jours, je ne veux pas non plus édulcorer la question, mais 6 jours pour une erreur judiciaire, c'est pas... Une erreur judiciaire, ça peut durer des années.
Oui, alors là, ici, on parle d'une erreur policière, au minimum.
Oui.
Alors, c'est de toute évidence, c'est trop long. Ce qu'il faudra savoir, c'est y a-t-il vraiment eu erreur, bavure? Est-ce que c'est le produit d'un invraisemblable concours de circonstances extrêmement rare, qui est un peu comme remporter la loterie, qui est tombé sur M. Camara, puis... il n'aurait pas été possible de faire les choses autrement. J'en sais rien, mais c'est pour ça que le juge Dionne, là, qui a été mandaté pour se pencher sur cette affaire, et son rôle est très, très important. Puis, ben, on saura ce qui est arrivé, puis il faudra prendre les mesures pour ne pas que ça se reproduise. Mais certains sont allés aux conclusions tout de suite et comme la mairesse Plante,
certaines,
comme
Justin Trudeau
aussi, ont tout de suite brandi le spectre de l'erreur, du biais raciste. Hein? Donc, Madame la mairesse a évoqué la question du profilage racial. Justin Trudeau est allé sur le terrain du racisme systémique. Dans les deux cas, qui est un abus, à mon point de vue. C'est un discours qui est indigne de la fonction qu'occupent ces deux personnes.
Pardonnez-moi, mais Nick Payne, oui. Il faut, si, comment dire, le politique n'a pas à s'immiscer dans le judiciaire. Je veux dire, Valérie Plante, je pense, avait déclaré M. Camara coupable avant même que n'importe qui d'autre dise quoi que ce soit.
Elle avait déclaré innocent, oui. C'est-à-dire, elle a dit que cet homme est innocent.
Ah oui, cet homme est innocent, voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui. Cet homme est innocent, mais quand savait-elle? Je veux dire, ça sent la récupération politique, et chez Trudeau, ce n'est plus du tout étonnant. Ce qui aura été... Tout le monde s'attendait à ce que Trudeau saute dans la danse allègrement, goulûment, pour pouvoir encore une fois faire un mea culpa sur la poitrine des autres.
Oui, oui. Alors, qu'on me comprenne bien, je ne remets pas du tout en question l'injustice qu'a vécu M. Cameron et son droit de demander réparation, excuses et délais. Et puis, on ne veut pas que ça se reproduise. Mais là, on est ailleurs. Quand la mairesse de Montréal sort, comme vous le dites si bien, avant les conclusions, à tout le moins préliminaires de l'enquête, sortent et disent comme ça, ben, comme vous dites, oui, cet homme est parfaitement innocent et évoque le profilage racial. Là, on est vraiment dans le militantisme et dans la politique, partisane. Madame Plante parlait à cette portion très importante pour elle de l'électorat qui est dans la mouvance Nouvelle Gauche et très, 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 très sensible et portée à crier au racisme dès qu'elle en a l'occasion, et même parfois quand ça ne devrait pas être l'occasion de faire, mais ça, c'est un autre problème.
Mais c'est coutumier, me semble, de certaines élites progressistes, non? Pas toutes, évidemment, mais j'ai l'impression que le radar, comment dirais-je, on est ultra sensible à certaines questions sociales aujourd'hui auxquelles on n'était pas sensible. C'est une bonne chose, vous et moi, on en conviendra. Sauf que ce radar est aveugle à d'autres. Vous avez lu le papier de Patrick Lagacé dans la presse ce matin? Parce qu'il parle de cette affaire-là.
Oui, absolument.
Alors, il dit évidemment, il est probable qu'il y ait du profilage racial, mais etc. Mais il se pose une question que beaucoup de gens se posent tout bas, mais ne disent pas tout haut. Et si M. Camara avait été blanc, et là il parle du cas de Charles Beauregard, un éducateur en primaire, je pense. Il y avait un papier donc, de Patrick Lagacé en 2018, et il rapporte l'histoire. Ça se passe en 2015. On accuse... Monsieur Charles Beauregard d'avoir pris un enfant par les pieds et d'avoir suspendu dans le vide au-dessus de la balustrade de l'escalier qui mène de la cour de récréation à l'école. L'accusatrice, on n'a fait aucune vérification, il s'est avéré qu'elle le détestait, qu'elle avait tendance, paraît-il, à inventer des choses dans d'autres circonstances également. Il n'y avait eu aucune vérification et là, le cauchemar a duré 900 jours et Monsieur Beauregard n'a pas eu d'excuse du SPVM.
C'était un monsieur bien blanc.
Oui, bien blanc. Et donc là, on aurait bien aimé entendre les politiques crier à l'injustice, mais là, non.
Alors, ce que nous dit Lagacé, c'est que il y a du profilage racial. La police de Montréal l'a elle-même reconnu. Maintenant, c'est une question complexe. Il faut savoir pourquoi il y a du profilage racial. Est-ce que c'est forcément parce que les policiers sont racistes ou parce que l'expérience du terrain leur donne certains biais, mais qui ne sont pas forcément, totalement sans justification? C'est un autre problème qu'on refuse souvent d'aborder chez les plus militants. Oui. Mais donc, Lagacé, comme vous dites, amène comme argument le cas de cet homme qui a été très injustement traité lui aussi, qui n'était pas noir. Bon, alors bref, ça existe des erreurs policières et judiciaires. Et donc, à ce moment-ci, il n'est pas possible de savoir s'il y a eu profilage racial, racisme et injustice de cet ordre à l'endroit de M. Camara. Nous le saurons peut-être, et j'espère, nous le saurons plus tard. Et je reviens à Valérie Plante et Justin Trudeau. Vous avez raison, c'est un réflexe chez certains progressistes. Mais là, cette fois-ci, ce sont des gens qui exercent le pouvoir dans les plus hauts postes, la mairesse de Montréal et le premier ministre du Canada. Et leur rôle aurait été de dire, écoutez, j'improvise. Madame Plante aurait pu dire, je sais que certains se posent la question du profilage racial. Il faudra être très pointu là-dessus et vérifier ce qu'il en est, mais pour le moment, tout ce que je demande, c'est que M. Camara reçoive des excuses et qu'on se dépêche de faire la lumière sur ce qui a mené à son arrestation indue, finalement. Bon. Il y aurait eu moyen, donc, de satisfaire les uns et les autres sans aller de façon aussi radicale dans l'idéologie pure et dire, voici, à tout fait pratique, c'est du profilage racial, c'est terrible. Et Mme Plante, d'ailleurs, dans ce discours, a complètement oublié le pauvre policier qui est, il faut bien le rappeler, la première et la plus grande victime dans tout ça. Il est abîmé, il s'est fait tabasser, tirer dessus.
Oui, mais pardonnez-moi, Nick, mais il me semble qu'un policier a droit à moins de compassion. Aujourd'hui, on parle de violence policière, c'est devenu un mantra. Elle existe. Il y a des cas de violence policière. On ne va pas nier cela. Sauf que c'est devenu... Vous savez, c'est comme les féministes disaient, victime parce que femme, ou victime parce que j'appartiens à telle religion, j'appartiens à telle orientation sexuelle, j'appartiens à tel genre, ou à un non-genre maintenant. Et c'est comme si, encore une fois, on a l'œil braqué sur une souffrance, alors qu'il y a plein d'autres souffrances autour. Et je viens, si vous voulez, généraliser sur ce que vous dites.
Non, mais la question que vous posez est importante. C'est celle... En fait, moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on est en train d'importer ici, des États-Unis, cette espèce d'escalade émotionnelle autour des questions de race, à travers laquelle les vrais cas de racisme se perdent parmi toutes sortes d'opportunismes en tout genre, là, et de récupération politique, qui, au bout de la ligne, ont un effet qui peut être assez désastreux, qui est l'effet contraire à ce qu'on prétend rechercher, c'est-à-dire qu'on exacerbe les tensions raciales.
Et on les banalise comme ça un peu.
Oui,
c'est comme si on banalisait, parce que à force de crier au loup partout, à un moment donné, le vrai loup arrive et on dit « Ah oui, tu l'as déjà dit il y a une centaine de fois, donc je te crois plus cette fois-ci », et le loup arrive.
Absolument, et puis on exacerbe les tensions entre les communautés concernées et les policiers. Les policiers, de leur côté, peuvent se braquer et vouloir montrer qu'il existe un vrai problème présent chez telle ou telle communauté et en rajouter une couche et ils n'auraient pas dû le faire. Là, ça finit plus. Je suis pas convaincu, moi, et c'est dans cette optique-là que je trouve que la déclaration de Mme Plante et de Justin Trudeau étaient des déclarations franchement irresponsables. Au Québec, on vaut mieux que ça, on devrait être capable
d'aborder
ces questions-là avec un peu plus de sérénité et moins d'opportunisme.
D'un côté, on est en élection municipale, donc cette année, un électoral à la ville de Montréal. Et côté Trudeau, la vaccination bat beaucoup de l'aile et ça commence à gronder un peu partout. Et donc, l'affaire Camara, il fallait rebondir là-dessus, j'imagine. Est-ce que vous voyez là aussi une récupération ou c'est juste un biais idéologique?
C'est jamais... ça tombe toujours bien quand on peut faire diversion. Mais je m'en voudrais, Jean-Philippe, de ne pas glisser un instant sur le cas de cette adolescente qui a perdu la vie atteinte par balle à Montréal-Nord. Avez-vous remarqué à quel point on en parle peu comparativement à l'affaire Camara, quand même, somme toute? C'est terrible. Voilà une tragédie épouvantable qui relève directement peut-être de la difficulté qu'ont les policiers d'intervenir dans ces quartiers-là.
Tout à fait.
De la violence qui est rendue dans ces quartiers-là, qui n'est pas... devant laquelle on n'intervient pas sans toujours se poser la question du profilage. Alors, est-ce qu'on est devant une espèce d'indignation à deux vitesses ici? La question se pose aussi.
Tout à fait. Il y a aussi une certaine sanctuarisation, peut-être, de certains quartiers ou de certaines identités. On va passer un peu, il nous reste 7 minutes. Les chassidim d'Outre-Monde, donc ces juifs ultra-orthodoxes, donc ont remporté leur cause auprès de la Cour suprême. C'était au sujet de la limitation du nombre de priants ou de coreligionnaires dans un lieu de culte.
Oui, à une même adresse, si on veut.
Voilà.
Alors, ils ont plaidé, c'est un jugement de la Cour supérieure là, qui leur donne raison, ils ont plaidé qu'ils pouvaient se réunir à un maximum de 10 personnes par pièce à l'intérieur de chacun des lieux de culte. Alors, la question qui se posait avant, qui se pose encore après, c'est est-ce que c'est une décision idéologique fondée sur... une prépondérance qu'on donnerait aux droits qui touchent le religieux, si vous voulez, aux droits individuels qui touchent la pratique de la religion. C'est pas possible de dire ça quand on lit ce jugement. D'après les experts, c'est un jugement qui se borne vraiment à demeurer là, dans les questions, les technicalités administratives. Mais
oui, c'est administratif, oui. Et c'est pas encore une fois une...
Du nom de Guillaume Rousseau, que j'ai interviewé à l'émission samedi dernier, dit que même si c'est pas dans le texte, on peut penser qu'un juge puisse avoir à l'esprit le fait que ce sont des religieux lorsqu'il pose son... lorsqu'il émet son jugement. Alors donc, on n'aura jamais tout à fait la réponse. Maintenant, la question qu'il va se poser, c'est maintenant qu'ils sont satisfaits, vont-ils respecter les règles?
Est-ce que les différents compartiments dans les synagogues communiquent les uns avec les autres? Est-ce qu'il va y avoir un jeu de portes tournantes ou pas? On ne peut pas mettre un policier partout dans chaque pièce.
Ben, c'est ça. Puis on a eu dans les vents de différents cas là, de manifestations religieuses ou de pratiques de la religion qui posaient problème et parfois touchant cette communauté-là.
Qui sait, à certains éléments se sont drôlement mal comportés avec les policiers. Ils ont foncé dans le tas. Je veux dire, et c'est encore une fois, pas de compassion pour le policier.
S'il y avait une ligne conductrice à notre entretien aujourd'hui, c'est la difficulté d'être policier. Hein. Même si il ne faut pas faire abstraction des fautes. Par la brutalité. Et oui,
tout à fait.
Certains racismes et certaines discriminations, là, sans aucun doute.
Tout à fait, mais ce n'est pas une couleur idéologique. Il y a des manquements, il y a des cas, évidemment, ça, on ne va jamais nier. On passe à votre troisième sujet avant de clore l'émission.
Allons-y.
Ou voulez-vous continuer?
Non, ça va, c'était juste un petit... c'était bien d'en parler comme ça, mais il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur les estimes pour le moment.
La crise de la COVID, je vous apprends qu'il y a une crise depuis un an. Beaucoup de gens voudraient, surtout à l'opposition, voudraient que le Premier ministre François Legault fasse une enquête publique sur la gestion de la COVID. Il me semble qu'il y en a déjà eu, non?
Ben, c'est ça. Une personne a été nommée. Là, j'oublie son nom, m'échappe au moment où nous nous parlons, mais elle, selon M. Legault, elle dispose de tous les pouvoirs d'un enquêteur indépendant. C'est fort bien. Mais c'est quand même une employée du gouvernement. Là, il va falloir une enquête, et tout le monde, je pense, s'entend là-dessus, sauf M. Legault pour l'instant, une enquête parfaitement indépendante. Maintenant, il y a deux problèmes là, contradictoires. D'une part, les élections s'en viennent déjà en 2022. Je présume que les partis d'opposition voudraient qu'on ait pu faire un peu la lumière sur la gestion et les manquements dans la gestion de la crise avant les élections. C'est pas seulement opportuniste, hein? C'est bien que les Québécois puissent se faire une idée sur ce que le gouvernement a fait avant une élection, mais en même temps, c'est peut-être un peu trop tôt parce qu'il faudra des années pour décanter tout ça. On n'est même pas sorti de la pandémie. On ne sait pas quand on le sera. Donc, épineuse question. Mais sur le principe même d'une enquête indépendante, je pense que on peut difficilement être en désaccord. Surtout que le Québec a connu une performance moyenne, pour employer un euphémisme, là, surtout dans la première vague.
Effectivement, oui.
De loin, les pires au Canada. M. Legault aime bien nous comparer avec des pays. Je veux bien, mais en tout cas, si on se compare à nos voisins immédiats, on n'a pas été très bons, il faut se l'avouer.
Mais si on se compare à Israël, la vaccination va grand train. C'est pas la faute du Québec, c'est la faute du fédéral. D'ailleurs, au fédéral, je veux dire, il serait temps qu'on apprenne un peu comment le gouvernement Trudeau gère la COVID aussi. Ça serait bien si.
Sans aucun doute, oui.
Pensez-vous que ça va arriver un jour ou on va continuer à travailler fort pour les Canadiennes et les Canadiens?
À être en train, hein, de travailler.
À être en train d'eux et en train de réfléchir d'être en train d'eux, oui.
Le contexte de gouvernement minoritaire à Ottawa intervient aussi dans ça. On n'est pas tellement dans le long terme. Je ne sais pas où on en est quant à la réflexion sur une enquête indépendante, mais il faudra qu'il y en ait une. Et ce qu'on voudrait savoir, notamment, c'est qu'y a-t-il dans ces fameux contrats signés avec les compagnies pharmaceutiques, notamment cette idée de recevoir les vaccins par tranche mensuelle ou trimestrielle, je ne me souviens plus, là. C'est un peu étrange. Le Canada est
trimestriel et non pas hebdomadaire.
Oui, c'est ça. Enfin, bref.
Non, et puis, évidemment, la capacité... On a de la difficulté à s'entendre.
Ah, est-ce que... M'entendez-vous? Moi, je vous entends très bien.
Ah, vous m'entendez très bien. Quelquefois, ça grésille. Il nous reste une petite minute. Tiens, puisqu'on parle d'Ottawa, pensez-vous qu'on va arriver en élection tôt ou tard ou pas? Ou ça, ça relève de la boule de cristal?
Ben, de la même façon que le contexte électoral joue sur les bilans qu'on pourra faire de la gestion de crise, l'inverse est aussi vrai. La crise rend toujours la possibilité d'élection un peu abstraite. Qui voudra vraiment se lancer en élection, porter l'odieux en quelque sorte d'une telle chose en pleine pandémie? C'est pas simple. Par ailleurs, il y a des partis comme le NPD qui sont toujours financièrement mal en point.
Je pensais que ça allait mieux maintenant. Ils avaient remboursé toutes leurs dettes.
Oui, mais bon, c'est pas quand même pas le Klondike non plus au niveau notamment des dons. Et puis, j'ai pas l'impression que beaucoup de gens sont mûrs pour aller en élection. De chez Aaron O'Toole, les conservateurs, c'est un peu la chicane pour le moment entre les plus radicaux. Derek Sloan et compagnie, cette mouvance-là.
Alors, nous fera beaucoup de sujets à venir pour la semaine prochaine et les autres semaines, Nick Payne. Merci beaucoup.
En effet, donc pas d'élection à l'horizon pour le moment.
En tout cas, pas la semaine qui vient, en tout cas.
Non,
Nick Payne, à la semaine prochaine. Voilà, c'est la fin de l'émission. Demain, qu'est-ce qu'une spiritualité du don et les racines chrétiennes de l'Europe, prise 2. À la régie Daniel Fortin, ici Jean-Philippe Trottier qui vous dit merci, vous donne rendez-vous à demain et vous invite entre-temps à rester à l'antenne de Radio VM.